Du 15 au 27 janvier, l'espace d'art contemporain Sextus à Aix-en-Provence accueille l'exposition Gamers 2, une exposition collective et multimédia dans laquelle les artistes investissent l'univers des jeux vidéo. Quentin Détieu, tu représentes l'association M2F qui est organisatrice de cette manifestation. Quels sont ses objectifs, son champ d'action ? Je crois d'ailleurs que M2F, ça veut dire mort de faim. Alors peut-être tu peux nous expliquer ça.
C'est une association qu'on a créée en 2003 avec pour but de favoriser la création et la diffusion artistique. Donc cette exposition tourne effectivement autour du 8-bit, du détournement et de l'interactivité. Ce qui nous intéressait, c'est de développer un événement avec des problématiques ludiques et de détournement, avec un accès le plus grand possible au public. Donc le game art, c'est une espèce d'art contemporain qui aujourd'hui en fait reprend les codes visuels de jeux vidéo qui vont des années 70 jusqu'à nos jours, qui les détourne afin de trouver en fait de nouvelles problématiques et de les exprimer à travers ce médium qui est ludique et qui laisse au public la possibilité d'interagir.
Je crois que vous souhaitez avoir une dimension la plus large possible et notamment la plus internationale dans les projets que vous menez.
Complètement, puisque nous travaillons avec le Centre international pour la culture et les arts numériques à Prague, qui est le CIANT, le collectif La Vitrine, qui est basé à Maribor, en Slovénie, et nous développons actuellement un projet en parallèle qui s'appelle Immediate, donc c'est Immersion Dance in Telematic Environment. Donc ça va être des projets européens qu'on va développer comme ça entre plusieurs pays, dont la Turquie, la Slovénie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Allemagne.
Gamers, deuxième édition, 20 créateurs, je crois, à peu près, qui présentent des œuvres affirmées comme ludiques. Est-ce que c'est de votre part une volonté de présenter l'art contemporain à l'opposé de cette image un peu élitiste, un peu compassée, un peu pointue et austère que le grand public a parfois de l'art contemporain, une manière de retourner un peu la vision ?
Complètement. Nous, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de faire un art contemporain qui part de problématiques et d'une esthétique qui est tout à fait populaire, puisque c'est l'esthétique des jeux vidéo que nous connaissons tous et qui ne fait pas forcément référence à de l'histoire de l'art, ce qui ne l'empêche absolument pas de poser les problématiques et de les affirmer.
Tu es venu accompagné de quelques-uns des artistes qui font partie de cette programmation. Alors, je te laisse le soin de les présenter.
Donc, je suis venu accompagné de Romain Senator, qui fait partie de l'association M2F Création et du collectif d'Ardex Mort de Faim, qui est un collectif avec lequel nous développons finalement toute une pratique artistique basée sur le détournement et le ludique. Confit Pop, qui est un artiste marseillais.
Je gère le Micromusique Marseille HQ qui fait des soirées sur Micromusique sur Marseille et sa région dans le sud, on va dire. Et la Micromusique, donc, c'est le détournement au niveau du son, le détournement sonore au niveau du son des jeux vidéo. Donc on fait de la musique exclusivement avec des vieux ordinateurs tels que Commodore 64 ou Atari, ou avec des Game Boy pour ma part, et des jouets modifiés aussi. C'est-à-dire des jouets qu'on achète, des vieux jouets pas chers qu'on achète, qu'on détourne, et on en fait des instruments en fait, et on s'en sert.
Une dimension musicale qui est très importante dans cette manifestation. Presque toutes les performances ont une dimension sonore.
Tout à fait, puisqu'en fait, le jeu vidéo, ce n'est pas qu'un univers visuel, mais il y a aussi toute cette partie sonore qui est super importante, dans laquelle on retrouve des sonorités qui sont des sonorités quasiment invariables, très simples ou des fois plus complexes, mais avec une espèce de son très, très 8-bit, donc qui date des années 90.
Tout à l'heure, à propos de Confit Pop, tu évoquais que vous utilisiez souvent le son de vieux ordinateurs. Il y a une dimension nostalgique ou un peu vintage dans vos productions ?
Alors, il y a une dimension vintage, nostalgique pour certains. Après, il y a aussi une dimension, à mon goût, qui est par rapport à l'évolution de la musique électronique et par rapport à l'évolution esthétique. Moi je suis un enfant de la musique électronique, on va dire, et après 20 ans de son qui a toujours évolué, pour moi écouter ce son un petit peu cracra et pas forcément très bien défini, ça me donne une impression de tradition, on va dire, ou de véracité quelque part. Et donc pour moi, j'aime beaucoup ça pour ma part. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça joue. Et il y a aussi le côté très ludique, puisque en général c'est des sons auxquels on ne faisait pas vraiment attention, on était plus happé par l'image, mais c'est quand même des sons qui nous ont entourés pendant toute notre enfance. Et donc quand on écoute ça, une musique un peu sérieuse avec des codes de maintenant mais faites avec ces sons là, ça a vraiment un côté propice à la fête et assez ludique.
En tout cas, c'est quelque chose qui est un peu en réaction à ces productions musicales qui mettent en œuvre des quantités astronomiques de logiciels, de matériel, des choses qui coûtent très très cher. Et au fond, cette musique électronique qui est née dans des garages, qui est née dans des home studios, aujourd'hui, elle n'est plus tellement à la portée de tout le monde. Est-ce que votre travail, ce n'est pas aussi une manière de redémocratiser cette musique qui est devenue aujourd'hui un petit peu embourgeoisée, on va dire?
Oui, personnellement, pour moi, mon travail, oui, c'est... j'ai beaucoup travaillé avant avec beaucoup de logiciels qui valaient cher, avec des machines qui valaient cher. Je m'endettais pour quelques mois pour justement être toujours au top. Et là, de retrouver une simplicité, non seulement au niveau du son, mais aussi de retrouver, au moins, un jouet, je le paye 2 euros chez Emmaüs. Je fais quelques soudures à l'intérieur, je mets quelques potentiomètres et j'apprends à utiliser, j'explore pendant quelques heures et j'en fais un instrument. Donc avec ma Game Boy qui fait la rythmique et qui fait les mélodies principales, ça fait quelque chose de très peu cher et ça fait un studio en plus portable. Avec une Game Boy dans la poche, on peut jouer dans n'importe quelle soirée où il y a du son avec des amis. Donc il y a aussi ce côté nomade qui va vraiment avec ça et donc vraiment pas cher aussi.
Est-ce qu'on peut dire que cette manifestation, elle est générationnelle, c'est-à-dire que la plupart des participants ont à peu près le même âge et qu'elle correspond à l'esthétique d'une génération? Ou bien est-ce que dans la programmation de ce Festival Gamers, il y a des gens qui ont des âges très très différents, il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui en ont 60 ans?
Alors c'est vraiment une exposition qu'on a essayé de concrétiser comme une expérience assez hétéroclite, c'est-à-dire que... pour la première édition, c'était un petit peu la même. On a eu des publics de tout âge et qui vont en fait, enfin, des enfants qui ne connaissent absolument pas cet univers. Et finalement, on retrouve aussi des spectateurs qui ont passé les 70 ans, qui ont l'habitude de voir de l'art contemporain, entre guillemets, traditionnel, et qui sont amenés finalement à découvrir cet univers qui est ludique et en général, ça se passe très bien. Ça fait plaisir à tout le monde.
Vous détournez souvent les codes du jeu vidéo, des jeux vidéo dans lesquels il faut jouer plus pour gagner plus, où on se massacre aussi allègrement que virtuellement. Au fond, il y a une dimension assez critique dans ce que vous proposez, critique à l'égard de la société, critique à l'égard de la société du spectacle, et y compris de sa dimension ludique. À la fois, vous aimez les jeux vidéo, mais vous n'êtes pas dupe pour autant de ces univers parallèles qu'ils proposent.
Alors effectivement, on vit dans un monde où aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu en fait une industrie qui a surpassé complètement le cinéma hollywoodien, qui est bien plus rentable que le cinéma hollywoodien avec des budgets qui sont intarissables. Nous, notre position à nous, c'est de pouvoir dire à un moment, on s'empare de ces moteurs de jeu, qui sont des moteurs qui coûtent pour la plupart des millions d'euros. Et nous, notre politique, c'est de récupérer ces moteurs de jeu, de les détourner, afin de produire en fait une problématique axée sur des raisons politiques ou sur des raisons ludiques.
Est-ce que tu peux être un peu plus explicite sur ces raisons politiques?
À partir du moment où on voit les États-Unis produire des jeux vidéo et commencer à les mettre en place avec des problématiques souvent axées autour de la guerre, c'est vraiment aussi une façon de démocratiser pour eux et de faire une certaine part de recrutement par rapport à l'armée américaine. On voit qu'aujourd'hui, toutes les armées des plus grands pays possèdent eux-mêmes des moteurs de jeu qui leur servent de moteurs de simulation. C'est vrai que c'est bien un moment de pouvoir y avoir accès et d'en faire autre chose.
Je crois que ce projet Gamers et les activités de M2F sont très en lien avec l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Peut-être est-ce que tu peux expliquer comment et comment se fait la connexion?
Alors disons que nous on vient des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, on a passé notre diplôme il y a quelques années, mais c'est vrai qu'on est rentré dans cette école parce que justement on avait la possibilité d'accéder à ces nouvelles technologies. Et qu'aujourd'hui, il y a toujours quelques étudiants qui sont intéressés. Donc on se sert vraiment en fait, du potentiel, que ce soit technique, que ce soit au niveau des professeurs et des étudiants qui sont dans cette école, afin de développer cet événement.
De nombreuses installations présentées dans le cadre de cette manifestation Gamers, des performances aussi, des concerts, on l'a entendu, de la musique, Cerveau Valve, Confipop, d'autres encore. Peut-être quelques grands rendez-vous dans cette période du 15 au 27 janvier. Est-ce qu'on a tout le temps un flux continu de performances et d'activités, ou bien est-ce qu'il y a des moments particuliers, des temps forts?
Alors les temps forts, ça va être le soir du mardi 15, où finalement on va retrouver cette soirée de performance avec, comme vous le disiez, Confipop, Pierre André, Sida Beatball, Junkin Pop, Benjamin Cadon et Philippe Coudert. Et par la suite, en fait, cette exposition qui va durer 15 jours avec des artistes. D'ailleurs, on a Paul Destieux avec nous du collectif La Vitrine à Maribor.
Paul, peut-être quelques mots sur ce que tu proposes?
Oui, alors je propose une installation vidéo qui est en fait une attaque de train à la serviette en papier. En fait, c'est une vidéo que j'ai réalisée en Slovénie où en fait je suis allé disposer le long de la voie ferrée sur à peu près une centaine de mètres un dégradé de serviettes colorées. Et donc là, le rapport au jeu vidéo, il est très clair. Il se passe par rapport simplement à quelque chose de plastique, très formel, qui est de l'ordre du pixel. Et donc, c'est une espèce de boucle. C'est une installation, donc une boucle vidéo, avec un train qui passe de temps en temps et qui produit une espèce d'explosion de couleurs, donc un espèce d'attentat comme ça, super Kodak couleur.
En attendant donc, du 15 au 27 janvier, c'est à l'espace d'art contemporain Sextus, c'est à Aix-en-Provence, sur le cours Mirabeau, et c'est Gamers numéro 2. Un numéro de téléphone, un site internet pour avoir plus d'infos?
Voilà, alors vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet de l'association, qui est http://www.m2fcreation.fr.
Le vernissage de l'exposition, c'est...
le mardi 15 janvier à partir de 18h, donc il y aura en fait toute une présentation de l'exposition à l'espace d'art contemporain Sextus, et il sera suivi d'une soirée de performance à partir de 20h30 à l'amphithéâtre de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence.
Et c'est gratuit.